Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour et bienvenue à tous dans Une heure en France. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier. La semaine du goût se poursuit.
Oui, c'est une spéciale pâte ce midi avec le championnat du monde des pâtes, donc qui pour la première fois quitte l'Italie et se délocalise en France. Nous serons avec un chef italien et avec une chef française pour découvrir l'art des pâtes. Et puis nous découvrons les fontaines à eau qui arrivent dans les restaurants, une alternative aux bouteilles d'eau minérale.
On reste à l'eau donc pour accompagner les pâtes, c'est plus sérieux le midi.
On va parler de rugby aussi.
Oui, d'un match qui n'aura pas lieu, France-Angleterre, et au-delà du choix d'une Coupe du Monde au Japon, en pleine saison des typhons, le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, sera avec nous.
Et on commence avec l'actu de ce 10 octobre, c'est avec Simon de Faucompris.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
C'est terminé pour Michelin à La Roche-sur-Yon. L'usine de pneus pour poids lourds, concurrencée par les fabricants asiatiques, va fermer d'ici la fin de l'année prochaine.
Les 619 salariés ont été officiellement prévenus ce matin. Ghislaine travaille là-bas depuis des années. L'annonce lui a fait un choc.
Convoqué 8h45 et puis 9h15, terminé. Fin de chantier. Et on vous dit rentrez chez vous. Comme si de rien n'était. Honteux. Honteux. On nous dit de rentrer chez nous. Il n'y aura pas de production de toute façon. Fermeture fin 2020, maximum. D'ici la fin de la semaine, il n'y aura rien du tout. Et je peux vous garantir que d'ici 2020, il n'y aura pas grand-chose de fait non plus, ça c'est sûr.
Vous, ça fait combien de temps que vous bossez ici ?
15 ans. 15 ans d'ancienneté et je ne sais pas quoi faire maintenant. Est-ce que je continue dans le groupe pour être viré dans 5 ans ? Est-ce que je fais autre chose pour retomber à 1 300 € de paye ? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible pour moi.
Un témoignage très fort au micro France Bleu de Marc Bertrand.
De son côté, la direction promet d'accompagner chaque salarié et de lui proposer plusieurs solutions pour rester au sein du groupe.
Dans l'Essonne, un élève interne de 16 ans est gravement blessé. Le parquet d'Evry nous confirme ce midi qu'il a été poignardé au torse hier soir dans l'enceinte même de son lycée. On ne connaît pas encore les motifs de cette agression.
Deux semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen, des perquisitions sont en cours dans les locaux administratifs de l'usine. L'opération s'est à l'entreprise voisine, Normandie Logistique, trois de ses entrepôts ont aussi été touchés.
Et on ne sait toujours pas en revanche qui a causé un tel départ de feu en pleine nuit. Les sénateurs viennent de voter la création d'une commission d'enquête. Ses 21 membres vont se pencher sur le rôle des pouvoirs publics dans cette crise et sa gestion des risques sanitaires et environnementaux. L'épouse de Michaël Harpon se dit sidérée. D'après ses auditions de garde à vue recueillies par France Info, une semaine après l'attaque par son mari de la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts, selon elle, il aurait fait une crise de démence la nuit précédant ces assassinats. Témoignage à retrouver sur francebleu.fr. En Syrie, les forces kurdes tentent toujours de repousser les assauts turcs. Bombardements et attaques terrestres se multiplient depuis hier. Nicolas Balu, bonjour.
Bonjour.
Alors comment on l'explique cette offensive ?
Oh, vous savez, c'est une histoire vieille d'un siècle. Disons que les Kurdes sont une minorité à cheval sur plusieurs pays et la Turquie considère comme une menace les rebelles kurdes syriens qu'ils rapprochent du PKK, parti kurde turc, considéré comme terroriste par Ankara. Le président Erdogan veut tout à fait officiellement déloger les Kurdes du nord de la Syrie et créer une zone tampon. Il souhaite également y installer des réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie.
Et du côté de l'Occident, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ?
Alors, les Kurdes ont été alliés des Occidentaux contre le groupe État islamique. Par ailleurs, ils gèrent des camps de djihadistes, notamment occidentaux. Il y aurait 400 Français, des hommes, des femmes et des enfants. Et depuis plusieurs mois, les Kurdes le disent, récupérez vos djihadistes. En cas d'intervention turque, nous mettrons nos forces sur le front, plutôt que de les faire surveiller vos djihadistes. Donc le risque, eh bien, ce sont les évasions, un éparpillement des djihadistes, le renforcement de Daesh, ou bien alors la gestion des djihadistes par les Turcs. L'Europe est déjà dépendante de la Turquie pour les flux de migrants. Ce n'est donc pas elle qui aura le plus d'influence.
Et ça, le président turc Erdogan le sait bien. En réponse aux critiques, il menace aujourd'hui d'inonder l'Europe de 3,5 millions de réfugiés syriens. Merci à vous, Nicolas Balu. À la synagogue de Halle, en Allemagne, rassemblement d'hommage aujourd'hui aux deux victimes de l'attaque armée qualifiée d'antisémite hier après-midi. Les violences envers la communauté juive ont augmenté de 20% en un an dans le pays.
Tout le monde sur le pont pour lutter contre le sida. Dernier jour d'une conférence mondiale à Lyon visant à recueillir des dons contre ce virus, mais aussi le paludisme et la tuberculose.
Objectif 14 milliards de dollars et on n'y est pas, a lancé Emmanuel Macron tout à l'heure. La France a gonflé sa contribution pour atteindre le 1,5 milliard d'euros. Le président met la pression sur d'autres nations comme le Japon ou l'Australie pour faire de même. Le ciel tombe sur la tête du mondial de rugby au Japon. Nouvelle-Zélande-Italie et France-Angleterre, deux matchs annulés ce week-end à l'arrivée du typhon Agibis sur l'archipel.
Une compétition au Japon en pleine période des typhons. Les mondiaux d'athlétisme au Qatar sous 40 degrés, faut-il remettre en cause le choix des destinations sportives? On posera la question à Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et grand amateur de sport.
En Ligue 1 de foot, autour de Toulouse, d'éjecter son entraîneur, le TFC. 18e au classement, s'est séparé aujourd'hui d'Alain Casanova. En parallèle, Lyon se cherche un nouveau coach. Mmh. Les dirigeants rencontrent Laurent Blanc aujourd'hui.
Et Rudy Garcia dans la foulée, si j'ai bien compris. Double dose au prix Nobel de littérature.
Et en plus du lauréat 2019, ça c'est normal, l'Académie suédoise doit aujourd'hui récompenser celui de l'an dernier, mesure exceptionnelle. Elle avait dû le reporter après des scandales de violences sexuelles au sein de cette même Académie.
Merci de nous rafraîchir la mémoire.
Mais je vous en prie. La météo, il y a du mieux. Le soleil revient sur l'extrême sud, de belles éclaircies partout ailleurs. Mais les nuages restent quand même tenaces le long de la Manche, quelques gouttes même dans le massif central.
14 degrés à Épinal cet après-midi, 16 au Havre, 17 à Saint-Étienne et à Boulogne-Billancourt où nous allons au restaurant avec une heure en France. 20 à Mimizan, 22 à Nîmes, c'est pas mal pour la saison. Bonne continuation,
bon appétit.
De fond complet.
Merci.
Dans un instant, c'est rugby, athlétisme et football avec notre invité.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Laurine Benjebria.
Quelques perturbations en ce moment sur la 86 intérieure et extérieure entre Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne. Comptez une dizaine de minutes pour traverser le secteur dans les deux sens de circulation. Ça devient aussi compliqué sur le périphérique extérieur de la porte d'Orléans à la porte de Bercy. Et sur la francilienne extérieure en Seine-et-Marne, à partir du Collégien, vous ne roulez plus que sur la voie de gauche à la suite d'un accident au niveau du Pin. Des perturbations, vous en rencontrez aussi dans les transports en commun, notamment sur le RER A avec un trafic perturbé de Châtelet-Léal vers Saint-Germain-en-Laye, Cergy-les-Hauts et Poissy. Et sur la ligne C, attention, les trains ne marquent pas l'arrêt à Paris-Austerlitz en raison d'un bagage oublié.
Il n'y aura pas de France-Angleterre après-demain, c'est la saison des typhons au Japon et cela repose le problème du choix des lieux de compétition. Nous accueillons le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
La Coupe du Monde de rugby au Japon, c'est génial pour le Japon et pour développer ce sport en Asie, mais il se trouve qu'on savait depuis le début que c'était aussi la saison des typhons.
Oui, effectivement, il y avait un risque de cela, mais en même temps, les compétitions ne peuvent pas toujours avoir lieu dans les pays occidentaux. Les instances sportives ont pour volonté de faire un peu rayonner le sport, de conquérir des pays nouveaux, et donc effectivement, il peut y avoir un risque climatique un peu partout, et dans le cas du Japon, il était plus accentué, mais on peut espérer que cela ne va pas complètement gâcher la compétition. Il y a l'annulation de ce match, mais en même temps, c'était un match qui ne comptait pas réellement pour la qualification.
Le rugby, est-ce que vous diriez que le rugby, c'est aussi de la géopolitique comme le football et des choix parfois surprenants de destination pour les Coupes du Monde ?
Jusqu'ici, la Coupe du Monde de rugby avait toujours eu dans les pays traditionnels, les pays d'ailleurs qui ont laissé leur nom au palmarès. Mais le but de la Fédération internationale de rugby, c'est d'élargir ce cercle. Et le Japon est un pays qui est devenu un pays de rugby, qui ne l'était pas, mais qui est devenu un pays de rugby. Et donc, c'est un peu toujours dans cette perspective et cette ambition de faire rayonner au plus largement possible le sport que le Japon a été choisi pour la Coupe du Monde. On a d'ailleurs eu les mêmes débats en 2002, lorsque la Coupe du Monde a été de football cette fois-ci, a été co-organisé pour le Japon et la Corée. Certains disaient, mais le Japon n'est pas un pays de football, mais c'est volontairement que la FIFA avait co-attribué la Coupe du Monde de football à deux pays asiatiques, toujours pour élargir le champ d'action du football.
Alors, quand on aime le sport, ce qui est votre cas, est-ce qu'on se dit, tant pis si des matchs sont annulés, tant pis si les joueurs lâchent un peu plus de ballons qu'à l'ordinaire à cause du taux d'humidité de 80%? On fait avec et on suit le spectacle.
En tous les cas, on ne peut pas avoir la nostalgie d'un temps où seuls des pays riches dont le climat est tempéré peuvent organiser des compétitions sportives. On a eu le même cas aussi pour les mondiaux d'athlétisme au Qatar qui s'est passé dans les conditions effectivement qui ont été critiquées. Mais je pense, vous savez, lorsque la Coupe du Monde se déroulait au Mexique, il y avait des matchs qui se jouaient avec une chaleur extrême et l'un des plus beaux matchs France-Brésil avait été joué dans une une chaleur qualifiée d'étouffante, mais qui n'avait pas empêché le jeu de se faire. Donc oui, effectivement, le sport se multilatéralise, le sport se mondialise, se multipolarise, et donc il va dans des pays qui n'étaient pas habitués à les recevoir, et je pense qu'il faut faire avec. En même temps, il faut que les pays fassent très attention, les pays qui candidatent, parce que si la compétition est mise en cause, au lieu de tirer un prestige d'avoir organisé la compétition, ils vont plutôt en subir l'opprobre. Donc les pays organisateurs et les fédérations qui délèguent l'organisation doivent être très précautionneuses de ne pas aller trop loin. Il peut y avoir quelques aléas, mais s'il y avait une remise en cause totale de la compétition, ça aurait un effet boomerang absolument catastrophique.
Vous avez fait allusion au championnat du monde d'athlétisme au Qatar à l'instant. Là, ce sont des aléas prévisibles. Courir un marathon sous 40 degrés en extérieur avec un stade réfrigéré. Et puis le Qatar qui prépare sa Coupe du Monde en 2022 qui sera décalée à l'automne. On sait qu'on va au-devant de problèmes, a priori.
Oui, il faut distinguer autant les mondiaux d'athlétisme ont créé un problème de par la chaleur, effectivement, pour les compétitions qui se déroulaient en dehors des stades. Donc les compétitions, les 50 km marche, le marathon, les compétitions qui se sont déroulées dans le stade n'ont pas eu cela. Et de nombreux sportifs ont dit qu'ils avaient passé des mondiaux tout à fait acceptables. Ce qui posait problème aussi au Qatar, c'est l'absence du public. Et effectivement, quand il y a ces grandes compétitions, on s'attend à voir des tribunes remplies. Elles étaient vides. Ça sera différent pour la Coupe du Monde de football parce que, en fait, pour les mondiaux d'athlétisme, les supporters, il n'y a pas de groupe de supporters qui se déplacent. C'est le cas pour une Coupe du Monde de football. Rappelez-vous, en Russie, on a vu des gens qui venaient en masse de tous les pays. Il en sera de même pour la Coupe du Monde de football. Donc, on ne peut pas tirer comme leçon de l'échec des mondiaux d'athlétisme que la Coupe du Monde de football sera aussi un échec parce que ce ne sont pas les mêmes spectateurs qui assistent.
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Du coup, on ne sait plus ce qu'on va faire samedi matin. On avait prévu France-Angleterre. C'était peut-être votre cas, non?
Oui, ben effectivement, ça libère la matinée.
Merci, je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Une heure en France. Denis Farou. Frédéric Le Tournier.
Et aujourd'hui, on se met en cuisine, c'est la semaine du goût. Ce week-end se tient à Paris le championnat du monde des pâtes avec Barilla.
C'est la première fois que ça se passe en France.
Nous recevons tout d'abord le chef italien Simone Zanoni qui officie au restaurant Le Georges à Paris. Il nous parle de l'art des pâtes.
On a des leçons à recevoir des Italiens, ça c'est sûr.
Et puis nous accueillons une chef française qui fait partie des membres du jury qui nous détaillera les différentes épreuves.
Un concours de spaghettis ou de cannelloni avec tomates, basilic, parmesan.
Eh bien, on entendra. Et puis on termine avec les fontaines à eau Castali, de plus en plus utilisées par les restaurateurs. Une alternative écologique et économique.
C'est pour faire passer les pâtes si on ne digère pas bien. La fontaine à eau distribue de l'eau plate ou de l'eau gazeuse?
Ah, les deux, il me semble. On va pouvoir se désaltérer au restaurant avec ces fontaines à eau. Vous l'avez compris, c'est la semaine du goût et les pâtes. Alors, on va voir si les Français les font vraiment trop cuire.
Les pâtes.
Une heure en France jusqu'à 14h. Les Stones sur France Bleu avec Satisfaction à 13h17 avant de se mettre en cuisine.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Des spaghettis, des farfales, des lasagnes, des cannellonis, des fusillis. En cette semaine du goût, on découvre l'art des pâtes dans Une heure en France à l'occasion du championnat du monde des pâtes qui se déroule pour la première fois en France et c'est avec Barilla.
Nous mangeons 8 kilos de pâtes par an. Les Italiens, 25 kilos, on s'incline. Et pour la consommation et pour la préparation, c'est un chef italien que nous recevons.
Le chef du Georges, le restaurant méditerranéen du Four Seasons Hôtel Georges V à Paris. Bonjour Simone Zanoni.
Bonjour à tutti. Bonjour tout le monde.
Ah, il parle français, on a eu peur. Vous avez grandi près du lac de Garde en Italie, grosso modo entre Milan et Venise. Vous avez des souvenirs de pâtes chez vous, à la maison?
C'est marrant parce que vous me posez cette question parce que c'est les pâtes pour nous c'est un des plus grands souvenirs que j'ai quand j'étais tout petit parce que c'est les pâtes pour un Italien au moins pour l'Italien que moi je suis font partie vraiment de mon histoire de mon enfance. Je pense que j'ai dû manger mon premier set de pâtes à maman, je sais pas, 6 mois, 7 mois c'est la pâte et c'est la marque aussi parce que c'est quand même une marque très historique qui m'a accompagné depuis petit jusqu'à l'âge de que j'ai quitté ma famille pour un peu faire mes expériences professionnelles.
Simone Zanoni, on est effaré par ce chiffre, 25 kilos de pâtes par an pour les Italiens. En Italie, du coup, on mange des pâtes quoi, tous les jours pratiquement?
Je pense que l'alimentation italienne, elle est basée au moins sur 4 voire 5 repas à base de pâtes par semaine, oui, facilement.
C'est fou.
Sauf que les pâtes, vous les mangez en entrée et ensuite vous mangez un autre plat parfois aussi.
Bah, je pense que c'était plutôt la tendance de les années il y a 20 ans qu'on a en tendance à manger un peu plus. Qu'on mange aujourd'hui, et on avait l'habitude de manger les pâtes en entrée, pour après manger encore, parce que pour nous, les pâtes, ça fait partie de ce qu'on appelle les primi piatti, les premiers plats. Après, en suivant, et après, il y avait de la viande, il y avait du poisson, il y avait autre chose, il y avait du fromage. Mmh. Aujourd'hui, je pense que l'alimentation en général est en train de changer. Le monde, les gens, ils se nourrissent de manière différente, beaucoup plus consciencieuse qu'auparavant. Et du coup, si on mange un assiette des pâtes, on aura tendance à faire des pâtes le plat principal.
Est-ce que selon vous, on peut accommoder les pâtes à tout?
On peut accommoder les pâtes à tout, pas n'importe quoi, parce que il faut quand même avoir, il y a des règles à respecter. Il y a aussi des certains, entre guillemets, il n'y a pas règles dans la gastronomie parce que c'est pas beau qu'est-ce que c'est beau, mais c'est beau qu'est-ce qui plaît. Du coup, c'est ce qu'on dit en Italie. Mais c'est vrai que si pour un chef, par exemple, on essaie d'éviter certains, on appelle bêtises à pas faire. Par exemple, quand on fait des spaghettis ou des pâtes aux fruits de mer, du coup, on va pas y mettre du parmesan. Il y a certaines choses, certaines règles de base que nous, on fait pas.
Oui, évidemment.
À propos des règles de base, on nous en voudrait de pas vous poser 2-3 petites questions très pratiques. Simone, à quel moment vous mettez le sel?
Le sel. Alors, le sel, c'est très important que le sel, il doit être donné aux pâtes au moment de la cuisson. C'est-à-dire qu'on peut pas ajouter du sel après, parce que du coup, on va jusqu'à saisonner la sauce et la pâte en lui-même, elle va pas prendre le sel. C'est-à-dire que c'est très important à reproduire une eau généreusement salée, assaisonnée, au départ de la cuisson, en manière que la pâte, quand on va se réhydrater, elle va absorber le sel aussi.
Et la sauce, on le met au début, à la fin, à quel moment?
Là, c'est un discours, c'est vraiment un discours qui peut prendre deux heures, parce que il y a un savoir-faire derrière, c'est important. vous savez, pour un Italien, la cuisson des pâtes, c'est toujours un peu touchy, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Moi, je pense que les pâtes, déjà, il faut penser que 50% des gens, ou même 60% des gens qui mangent des pâtes, ils mangent des pâtes trop cuites. Les pâtes al dente, c'est quelque chose qui est encore très peu fait ou cuite en France, mais même en Italie. On a des règles de base très importantes. Du coup, par exemple, la règle la plus importante, c'est de faire sauter les pâtes à la fin avec la sauce. N'est jamais utiliser les 100% du temps de cuisson qui est conseillé sur les emballages des pâtes. Parce que si vous sortez ça, les pâtes à la cuisson terminée, après le temps que vous avez, vous allez mettre la sauce, vous allez ajouter le fromage, vous allez mettre l'huile d'olive, du coup les pâtes vont dépasser votre cuisson.
D'accord.
C'est très important de laisser les pâtes au maximum 80% de cuisson Et à la fin, vous savez, les pâtes, c'est quelque chose qu'il faut prendre un peu de temps, il faut prendre un peu de passion, d'amour à terminer. Voilà. Vous avez le temps de les goûter, de les assaisonner, d'ajouter un peu de poivre, un peu de fromage pour vraiment créer quelque chose de parfait.
Et une dernière chose, vous égouttez les pâtes combien de temps? On n'est pas toujours d'accord en famille, à la maison.
Alors, les pâtes, il faut les goûter, les goûter toujours à trois quarts. C'est-à-dire que toujours garder de l'eau de cuisson, parce que c'est avec de l'eau cuisson qu'on va garder un peu la texture onctueuse à la sauce. Jamais perdre l'eau de cuisson, parce que c'est l'eau qui a bien sûr été imprégnée par l'amidon de la cuisson des pâtes. Et selon les goûts, il y a des gens qui aiment des pâtes plus ou moins saucées, il y a des gens qui aiment des pâtes plus ou moins fermes. C'est vraiment qu'il n'y a pas de règles fixes. Mais c'est vrai que l'eau de cuisson, c'est très important.
Simone Zanoni, est-ce que vous mangez encore des pâtes régulièrement, même si vous vivez en France en ce moment, et vous les préférez à quoi, les pâtes?
Mais vous savez, moi, j'ai travaillé dans les restaurants gastronomiques. Nous, on produit beaucoup de pâtes farcies. On doit produire au moins, je pense, 600-700 portions de pâtes par semaine. Wow. C'est-à-dire que c'est énorme. Ouais. Les gens, on est devenu un peu la référence pour la pâte haut gamme à Paris. Mmh. Mais à chez moi, la chose qui me fait plus plaisir, c'est vraiment un spaghetti au pomodoro, un spaghetti à la tomate, tout simplement, avec un bon huile d'olive, un peu parmesan, un peu de basilic, parce que basilic. C'est dans la simplicité de l'assiette qu'on peut vraiment parfois apprécier vraiment un bon assiette de pâtes.
Je vais vous demander une dernière chose, parce que votre accent est absolument charmant, il y a notre attaché de production qui est en train de tomber dans les pommes, là, pratiquement en régie.
Oh, ça me fait tellement plaisir.
Est-ce que vous pouvez nous souhaiter une bonne journée en italien, s'il vous plaît, Simone Zanoni?
Allora, signore e signore, vi auguro una buona giornata a tutti. Grazie mille.
Grazie mille. Merci beaucoup Simone Zanoni de nous avoir accordé quelques minutes et très bon championnat du monde des pâtes à vous.
Grazie mille, merci à vous, bonne journée.
À bientôt, au revoir. Et on joue pour le DVD des Baudins, Grandeur Nature, qui est sorti aujourd'hui avec France Bleu. Dites-nous comment s'appellent les pâtes en forme de papillon. Elles ont un nom, on les a citées tout à l'heure. Pas de proposition. Vous nous appelez au 0810 055 056 et puis vous restez avec nous. Le championnat du monde des pâtes, ça continue. On va parler, on va rentrer dans le dur, on va parler des épreuves. Ce sera après les larmes à paillettes de Rose.
J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up-tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Le cœur qui fout le camp quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid, comme pour la première fois, sur un slow de ABBA. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. J'ai le cœur éparade qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là.
rappelle un petit peu la musique des années 70-80. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Denis, ce titre de Rose.
Eh bien, personnellement, je n'y avais pas pensé, mais je suis tout oui.
Larme à paillettes, cet extrait du cinquième album de la chanteuse qui s'intitule Kérosène. Nous sommes avec Jacqueline. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour.
Vous êtes dans le Pas-de-Calais, Jacqueline.
Oui, vers Montreuil-sur-Mer, le Touquet.
Très bien, Jacqueline. Beau temps pour vous, grisaille, aujourd'hui ?
Beau temps, en ce moment, il fait du soleil.
Bon, et est-ce que vous aimez les pâtes, Jacqueline ?
J'aime bien les pâtes, c'est relativement facile à faire, j'aime bien.
Vous avez une recette que vous aimez faire particulièrement, une recette de pâtes ?
Oh, j'aime bien la carbonara, avec du saumon fumé.
Ouais, Frédéric nous fait croire depuis des années qu'elle a une recette de carbonara, mais on ne connaît que sa réputation.
Alors moi, c'est au lardon, Jacqueline, j'ai un petit côté puriste. Donc lardon, des jaunes d'œufs, du parmesan, c'est le seul truc que je sais faire.
La crème fraîche.
Crème fraîche aussi, voilà. Jacqueline, comment s'appellent les pâtes en forme de papillon ?
Des farfales.
Mais oui, tout simplement, les farfales, c'est la bonne réponse, Jacqueline. On vous envoie évidemment le DVD des Baudins, Grandeur Nature.
Merci beaucoup, je suis contente.
Ah bah, tant mieux, nous aussi. Nous aussi, du coup, Jacqueline.
Merci.
Chez moi, on appelait ça les pâtes papillons, tout simplement.
Oui, mais...
Chaque
chose a un nom, en fait.
C'est ce que disent mes petits-enfants, ils veulent des papillons.
Voilà, mais ils n'ont pas l'âge de Denis, vos petits-enfants, Jacqueline.
Non, ils ont 8 ans.
Donc ils ont encore le droit. Alors voilà, Jacqueline, on vous envoie le DVD, on vous fait une grosse bise, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir, Jacqueline.
Bonne journée, au revoir.
France Bleu. Ah, programmateur chez France Bleu la nuit, very good trip. France Bleu. 1, 2, 3, 4. France Bleu Collector. Chaque soir de la semaine, 22h30, 1h. France Bleu présente Pascal Obispo, de retour pour une tournée exceptionnelle dans toute la France.
Salut, c'est Pascal Obispo sur France Bleu.
Pascal Obispo, une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès, des titres de son nouvel album et de quelques surprises.
J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville.
Pascal Obispo. En tournée dans toute la France et à Paris, les vendredis 22 et samedi 23 novembre au Zénith de Paris-Lavillette. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu aime le cinéma. Fahim et son père ont fui leur pays natal.
Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ?
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France.
I want to be champion of the world.
C'est le début d'une incroyable histoire vraie. Fahim, un film de Pierre-François Martin Laval avec Gérard Depardieu et Isabelle Nanty au cinéma le 16 octobre.
Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
La bande-annonce sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Laurine Benjebria.
Toujours des difficultés sur le périphérique extérieur. L'accident survenu au niveau de l'échangeur de Bercy a été dégagé, mais vous continuez d'être ralenti depuis la porte d'Orléans. Et ça se répercute aussi sur la 6B avec des coups de frein, une vingtaine de minutes de ralentissement depuis Vissou. Vous êtes également fortement ralenti sur la 1 de la Courneuve à la porte de la Chapelle et sur la Francilienne extérieure au niveau du Pin où il y a eu un accident entre deux camions. Prévoyez donc une demi-heure de route pour aller de Collégien à Villeparisis. Dans les transports en commun, les trains du RERC en direction de Juvisy ne desservent toujours pas l'arrêt à Paris, Austerlitz.
C'est la semaine du goût et c'est la journée du championnat mondial des pâtes avec Barilla.
Des pâtes, oui, mais sur France Bleu.
Non, ça marche pas, c'est pas la bonne marque. Un duo tout de suite, c'est Renaud et Axel Red sur France Bleu.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de
la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'oublie jamais ni le courant.
Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les gardes civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Et leurs deux voix se mêlent parfaitement, Renaud et Axel Red sur Manhattan Kaboul.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Aujourd'hui et demain se tient à Paris au pavillon Cambon la 8e édition du Pasta World Championship, championnat du monde de pâtes en fait,
oui.
Avec Barilla.
Oui, avec des chefs japonais, suisses, australiens, allemands, canadiens, suédois, italiens évidemment et français qui s'affrontent sur le thème cette année de l'art des pâtes.
5 juges seront présents dont la chef française Amandine Chéniaud qui a travaillé avec Yannick Aleno, avec Jean-François Piège. Elle a été chef du restaurant de l'hôtel Raphaël à Paris. Elle a fait partie des jurés de Masterchef en 2014, l'émission de télé. Et son restaurant Pouliche ouvrira ses portes dans le 10e arrondissement de Paris dans quelques jours. Elle nous fait le plaisir de nous accorder quelques minutes. Bonjour Amandine Chéniaud.
Bonjour.
Première chose, on l'espère, est-ce que vous aimez les pâtes ?
J'adore les pâtes. J'adore les pâtes. J'en fais souvent. C'est vraiment pour moi la meilleure recette qu'on peut faire aussi bien dans un restaurant, à la maison, dans n'importe quelle circonstance. Les pâtes, c'est top.
Alors, les concurrents ne doivent pas faire un plat de pâtes comme nous, je parle de Frédéric et moi, à la maison. Ils doivent créer des recettes dignes d'une œuvre d'art.
Ça vous fait rire déjà.
C'est possible à partir d'un plat aussi simple, a priori, faire des œuvres d'art avec des pâtes?
Bah oui, parce qu'en fait, les pâtes, c'est un support. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme un canevas et sur lequel on vient greffer tous les éléments qu'on a envie. Et une autre chose aussi, c'est que pour moi, les pâtes, c'est vraiment la joie. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de remettre de la joie un peu dans notre quotidien. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mon restaurant. Donc oui, les pâtes, c'est un art.
Mais Amandine Chéniaud, donc les défis, on l'a compris, sont artistiques presque. Vous reliez ces assiettes de pâtes à de la peinture.
Exactement, à de la peinture. On peut aussi, dans la façon dont on l'amène, ramener une poésie dans l'intitulé du plat. C'est aussi une musique. Enfin, quand on entend l'eau des pâtes qui frémit, quand on entend des tomates en train de revenir. Enfin, il y a vraiment tous les sens qui sont mis, qui sont sollicités pour les plats de pâtes. Donc voilà, ça fait tout à fait sens.
Vous vous attendez à être surprise, voire bluffée pendant ces 2 jours à Paris au championnat du monde?
Alors j'espère qu'ils vont vraiment tous nous emporter dans leurs univers. On a la chance là aujourd'hui et demain d'avoir des candidats qui viennent de plein de pays différents. Et les pâtes finalement c'est aussi pour eux un super moyen d'expression et de ramener des ingrédients de leur pays, leur identité, leur technique et leur sensibilité.
Vous allez juger sur quoi? Parce que c'est différent entre une très belle et très bonne assiette de pâtes de l'une à l'autre, voir la différence. Sur quoi on juge? Comment on sait?
Il va y avoir les considérations techniques, évidemment, mais aussi, encore une fois, ce côté un peu plus personnel, un peu plus évocateur. Et là, j'espère qu'on va vraiment avoir des surprises, des choses très personnelles et très diverses.
Parce que quand on dit, Amandine Chaigneau, de la personnalité dans l'assiette, ça se ressent vraiment à ce niveau-là.
Ah ouais, complètement, hein, complètement, bien sûr.
Bah oui, évidemment, Frédéric. Enfin,
j'en suis loin, moi, voyez-vous.
Amandine Chaigneau, vous avez travaillé dans plusieurs restaurants de palace en France et à l'étranger. Vous allez ouvrir un restaurant, Frédéric le disait tout à l'heure, dans quelques jours à Paris. Est-ce qu'il y avait et est-ce qu'il y aura des pâtes au menu ou à la carte?
Oui, effectivement, dans quelques jours, j'ouvre mon restaurant qui va s'appeler Pouliche dans le 10e. Et j'ai vraiment envie que ce soit un endroit qui soit convivial, où on vive, c'est un endroit où on va venir se retrouver. Et je trouve que les pâtes, elles sont vraiment tout à fait dans cet esprit-là. C'est un plat qu'on a envie, qu'on soit de bonne humeur, de mauvaise humeur, qu'on soit avec sa grand-mère, son patron, ses amis, son frère ou sa sœur. Il y a toujours un plat de pâtes qui va bien à ce moment-là. Donc oui, il y aura des pâtes.
Oui, mais alors des pâtes pour la grand-mère et des pâtes pour le patron, c'est pas la même recette.
Bah, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que toutes les formes de pâtes, justement, seront autorisées dans le concours?
Oui, ils ont le droit à plein de pâtes différentes et après on a tous nos petites préférences. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les casarecce, les trofiés, les linguini par exemple, mais je suis sûre qu'on va avoir de belles recettes même.
Alors avec attendez,
parce que les linguini on voit à peu près, mais les deux premières on voit pas, on est nul.
Les casarecce, vous savez, elles sont un petit peu tordues et du coup moi je trouve elles sont très pratiques. C'est des pâtes un peu plus courtes.
D'accord.
Et du coup qui absorbent bien les sauces en fait, les plis de la pâte font que la sauce reste bien accrochée dedans.
D'accord.
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et la deuxième que vous avez citée
qu'est-ce que je vous ai dit
Je ne sais pas, justement, on n'a pas compris.
Mais non, mais il y a des pâtes pour toutes les circonstances de la vie.
Voilà.
C'est quelque chose de super.
Est-ce que vous avez du coup jeûné depuis quelques jours avant de déguster toutes ces assiettes de pâtes?
Alors non, j'ai même pas besoin de jeûner parce que là, je suis un peu sur les travaux finaux de l'ouverture du restaurant et ça m'occupe bien. Donc au contraire, je suis ravie d'avoir quelqu'un qui prenne soin de moi toute l'après-midi.
Bah, vous dépensez des calories, c'est très bien.
Exactement.
Amandine Chaigneau au championnat du monde des pâtes. Comment vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, le Pasta World Championship.
Yes.
Exactement.
Merci d'avoir pris le temps et on vous souhaite le meilleur pour l'ouverture de votre restaurant. Merci beaucoup, Amandine Chaigneau.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir. Et nous jouons toujours pour le DVD des Bodins, grandeur nature qui vous attend. Dites-nous de quelle région italienne vient le pesto qu'on aime bien mettre sur les pâtes. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il nous vient de Toscane ou de Ligurie? Le pesto, le célèbre pesto.
Vous savez quoi?
Quoi?
C'est une bonne question.
Je vous remercie pour une fois que j'ai un compliment de Denis Farou. Vous nous appelez si vous avez la bonne réponse au 0810 055 056. Et d'ici là, on va réentendre ce titre qu'on adore. Je suis certaine que c'est votre cas aussi. The Cure avec Close to Me. Et après, on va prendre de l'eau parce qu'il faut se remettre quand même de toutes ces pâtes.
On n'a pas trouvé le client qui, on va prendre de l'eau.
Oui, on va prendre de l'eau, des fontaines à eau. Les restaurateurs s'en servent beaucoup. Elle peut être pétillante ou plate, cette eau. Ils vont nous dire comment ça marche, combien ça coûte. Ils vont tout nous expliquer. À tout de suite sur France Bleu.
Close to me.
Toujours sur France Bleu, c'était Close to Me. Vous vouliez nous dire quelque chose à propos d'un sujet dont on a parlé il y a quelques mois sur France Bleu dans Une Heure en France, Denis Farou.
Je voulais vous rafraîchir la mémoire, Frédéric, nous avions
Frédéric,
parlé...
Frédéric, oui, c'est mon prénom.
Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est Frédéric, on n'a pas compris quoi.
Nous avions parlé de Chemin d'Avenir qui aide les jeunes des zones rurales à réussir leur avenir avec notamment des parrains et nous avions reçu la fondatrice de Chemin d'Avenir, Salomé Berliou, qui a écrit Les Invisibles de la République. Mm-hmm. Ce samedi a lieu à Paris les rencontres jeunesse et territoire avec des responsables d'entreprise, des parrains et des jeunes. Si vous êtes intéressé, les détails sont sur chemindavenir.fr.
Chemindavenir.fr, c'est noté. Nous accueillons Laetitia qui est dans l'Indre. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et qui aimerait bien repartir avec un DVD des Baudins.
Eh bien, pourquoi pas.
Est-ce que vous aimez les pâtes aussi, vous, Laetitia?
Moi, j'adore les pâtes et mes filles adorent encore plus les pâtes.
Elles vous les demandent à quoi, les pâtes, à la maison?
Avec de l'emmental, beaucoup de râpé, c'est un mélange de trois fromages. Donc, voilà.
Et coquillettes au jambon avec de l'emmental?
Oui, le jambon, pas trop.
Pas trop de jambon?
Non.
Très bien, Laetitia. Ça a l'air de vous faire rire, ma remarque sur le jambon. Vous êtes végétarienne, peut-être?
Pas du tout.
D'accord.
C'est ma grande. J'ai ma grande fille qui n'aime pas du tout la viande.
Ah, d'accord. Et oui, mais de toute façon, faire manger les enfants, c'est pas facile, hein, Laetitia.
Non, oui, tout à fait.
Vous êtes maman au foyer?
Oui, tout à fait.
Vous avez combien d'enfants?
J'ai deux filles.
Deux filles, très bien. Elles sont à l'école, là?
Ah, oui, oui.
Vous remarquez, c'est mieux.
La première qui ne mange pas de viande et l'autre qui mange peut-être du jambon. Voilà.
Voilà.
Très peu.
Ah!
Non, non. C'est ce qui les bloque, c'est que ça provient d'un animal, quoi. C'est comme ça.
Et oui. Souvent chez les enfants.
Et oui, il y a une conscience qui s'éveille quand même. C'est parfois un peu problématique pour les carences, tout ça, mais c'est aussi bien la prise de conscience. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, Laetitia.
Non, oui, tout à fait.
On va rester sur le pesto. Je vous demandais de quelle région italienne vient le pesto?
Les Liguries.
Oui, tout à fait. On dit souvent le pesto, la Genovese, qui veut dire la ville de Gênes, qui est en Ligurie. C'est la bonne réponse, Laetitia.
Eh bien, c'est parfait.
On vous envoie le DVD des Baudins. On vous souhaite bon courage pour bien faire manger les filles à la maison.
Oui.
Et on vous fait une énorme bise, Laetitia.
Merci. Très bonne journée à vous.
Bonne journée. Au revoir. Une heure en France, ça continue avec le tout dernier titre de Clara Luciani. Nu et oui, elle se met à nu sur France Bleu.
Grazie mille, Frédéric.
You're welcome.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chante? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Oh.
Bienvenue, c'était Clara Luciani sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Et après les pâtes, on va découvrir maintenant que la France consomme 9 milliards de litres de bouteilles d'eau et très souvent, dans les restaurants, ce sont des bouteilles d'eau en verre qui parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver sur notre table. D'où ces fontaines à eau qui font leur apparition dans certains restaurants.
Elles purifient l'eau du robinet, proposent de l'eau plate au goût neutre ou de l'eau gazeuse. Voici la fontaine à eau Castali.
Alors on teste dans un restaurant qu'il a adopté. On trouve la fontaine à eau à la table de Cybèle à Boulogne, près de Paris. Bonjour Francky Dello.
Oui, bonjour.
Alors, de l'eau puisée à la fontaine plutôt qu'achetée en bouteille, est-ce que c'est une démarche écologique pour vous ?
C'est une démarche tout à fait normale. Là, nous sommes ouverts, nous, depuis 8 ans à Blomy-en-Cour. Et avant d'ouvrir, justement, on a fait cette démarche de trouver, justement, de pouvoir éviter de faire parcourir des bouteilles d'eau des kilomètres en camion jusqu'à notre restaurant. Et Castali a tout à fait répondu à cette démarche. Donc de pouvoir nous proposer en fait de l'eau directement microfiltrée et de pouvoir les proposer aux clients. Donc il y a plusieurs avantages. Donc justement pas de bouteille en plastique, bouteille en verre mais qui se lave sur place, donc pas de transport, pas de maintenance pour nous aussi. C'est important.
Ouais.
Et aussi avoir un goût neutre. Nous sommes en plus dans un restaurant éco-responsable. Nous travaillons avec des artisans proches de notre restaurant. Nous sommes locavores. Donc on fait attention justement à comment travaillent nos producteurs aussi, donc en respectant l'environnement. Et Castali est tout à fait dans cette démarche.
Alors Francky Dello, vous vous doutez évidemment de ma question, on a dû vous la poser 120 fois. Est-ce que vous facturez du coup l'eau? Parce qu'on est étonné, si on nous facture l'eau du robinet, enfin, c'est compliqué.
On ne facture, alors on facture pas l'eau plate,
oui.
D'accord, mais on demande une contribution sur l'eau gazeuse. Enfin, il faut savoir que quand même, il y a tout un système qui est mis en place chez nous, et c'est un coût. Et surtout, on propose une eau tout à fait très bonne en goût, neutre, et qui apporte tous les bienfaits que demande le corps. Donc, il n'y a que l'eau pétillante, vraiment, on demande une contribution, mais l'eau plate, tout à fait gracieuse.
D'accord, c'est
d'accord,
logique.
D'accord, c'est noté. Et vous devez tout de même expliquer votre démarche aux clients qui ne savent pas, qui rentrent et qui commandent une eau minérale.
Alors, nous, dès que le client est assis, on leur propose s'ils veulent de l'eau plate ou l'eau pétillante. Automatiquement, donc, on leur propose l'eau microfiltrée par Castali. On n'a pas du tout d'autres eaux, comme j'ai pu l'expliquer. Ensuite, bah, justement, pourquoi, comment, et bien on leur explique. Et qui va tout à fait avec la démarche de notre restaurant.
Ils posent des questions comme nous. Ils posent des questions
comment
comme nous. Est-ce qu'ils sont embêtants comme nous? Ils vous posent autant de questions, là, les clients à table?
Non. Aujourd'hui, vous savez, maintenant, il y a 8 ans au début, ça a interrogé beaucoup de personnes. Mais je pense que c'est rentré dans les mœurs. De plus en plus, ça rentre dans les mœurs. Le fait qu'on puisse éviter d'avoir des bouteilles qui ont fait le tour du monde avant d'arriver sur la table.
Mais vous avez raison, Frédéric, on est un peu embêtant. Celui qui commande une carafe d'eau, il a de l'eau du robinet ou de l'eau de la fontaine?
Eh bien, l'eau, celui qui a une carafe d'eau, comme je vous dis, il a de l'eau de la fontaine.
D'accord.
Donc, c'est un service supplémentaire. Elle est microfiltrée. Et en plus, ça lui apporte tous les bienfaits de l'eau, qui est quand même différente du robinet, avec encore tout ce qui est chlore et autres. Là, c'est vraiment, gracieusement, on lui offre l'eau plate qui est microfiltrée, automatiquement.
Alors, Francky Dello, on ne se la représente pas bien, on est en radio en plus, donc faudrait nous la décrire, cette fontaine, elle prend beaucoup de place dans le restaurant, vous la mettez où?
Alors nous, on a un restaurant, on va dire, plus gastronomique, derrière un bar, et cette fontaine ressemble à une colonne inox, qui va très bien avec le bar qui en est un.
C'est un peu design, en fait, vous voulez dire.
C'est très design, exactement. D'accord. Mais design vintage, pour notre part. En sachant qu'on a un autre restaurant qui est dans la vallée de Chevreuse, qui a trouvé cette démarche aussi éco-responsable. On a même notre potager en permaculture sur place, qui fournit en fait les deux restaurants. Et là, nous avons une fontaine toujours Castali, avec un autre design.
D'accord.
Beaucoup plus qui va avec, on va dire, l'environnement.
Les restaurateurs peuvent choisir le look de leur fontaine pour qu'elle s'intègre bien au restaurant.
Exactement. C'est ça qui est intéressant aussi.
D'accord.
On n'est pas figé sur un seul modèle. Vous avez plusieurs modèles, oui.
Incroyable. Encore une fois, on a appris quelque chose aujourd'hui, et notamment que l'eau plate est gratuite pour les clients qui bénéficient de la fontaine à eau Castalli, qui arrive dans des restaurants comme à la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt, au sud de Paris, où nous étions.
Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en plein coup de feu, Francky Dello.
Je vous remercie, merci à vous, très bonne journée, et à très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Paris Latino pour refermer cette heure passée ensemble en France et Bandolero sur France.
Servez-moi une carafe d'eau, s'il vous plaît.
Ah non, mais je suis pas à votre service, dites donc. Levez-vous. Bandolero, Paris Latino sur France Bleu.
Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Dr. B, huh, that's me.
Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
Bandolero, ça se fait plus de parler comme ça. Paris Latino sur France Bleu. J'ai essayé, ça rend pas pareil. Une heure en France se termine. On a beaucoup parlé de pâtes aujourd'hui, Denis.
Simone Zanoni, qui a mangé ses premières pâtes à l'âge de 6 mois, préfère les spaghettis al pomodoro avec tomate basilic, un filet d'huile d'olive, tout simplement.
Quel bel accent il avait,
Simone. Pour la chef Amandine Chéniaud, les pâtes, c'est un canevas sur lequel viennent se greffer des éléments. C'est joliment dit.
C'est joli aussi parce que, je vous le rappelle, le championnat du monde des pâtes, c'est aujourd'hui et demain à Paris avec des concurrents qui viennent de tous les pays. Il faudra qu'on se tienne au courant, savoir qui a gagné.
Pasta Championship.
Yes. Et puis on a terminé avec un petit peu d'eau quand même.
L'eau de fontaine servie au restaurant est gratuite si elle est plate, payante si elle est gazeuse. C'est en tout cas le cas à la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt.
C'est économique et écologique. On revient demain, Denis, tout va bien.
Alors demain, c'est ambiance guerre des boutons. On sera dans la capitale française du lance-pierre.
Ah oui, il me semble bien que c'est dans le Var.
Oui, c'est ça.
On en dira plus demain. D'ici là, bonne journée.